This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, l'émission où on vous résume et on discute et on commente toute l'actu du MCU, les séries et les films, et aussi d'autres petits trucs parfois de temps en temps, mais aujourd'hui c'est MCU, et à vrai dire, on va parler de Hawkeye épisode 3 et 4, on dira en fin d'émission ce qu'on attend de Spider-Man No Way Home qui arrive bientôt, et puis on fait un petit détour aussi par Venom 2, mais alors ça va être court entre les deux, parce que, enfin, je vais pas vous gâcher, mais ça va être court. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, et à côté de moi, virtuellement, j'ai Johan. Comment ça va, Johan ?
Bonjour Patrick, ça va bien, si ce n'est que, tu sais, je me sens vieux Patrick. Hier soir, il y avait les Video Games Awards à 1h du matin qui ont duré 3h. Et dans une autre vie, j'aurais fait nuit blanche et j'aurais été dispo frais pour faire le podcast ce matin, mais j'ai même pas, essayé. Hein. Donc là, il m'attend. J'ai ouvert la vidéo YouTube
pareil.
Voilà, dès qu'on a fini, je saute dessus pour regarder ça.
J'étais en train de regarder et j'ai moi aussi interrompu pour. En plus, c'est un petit peu comme les films du MCU. Tu dois éviter les spoilers. Donc il faut vraiment regarder très vite avant que. Exactement. Ouais. Mais bon, on n'est pas là pour parler des Game Awards, même si c'est très intéressant. On est là pour parler d'abord de Hawkeye, épisodes 3 et 4.
Oui.
Est-ce qu'on fait les deux d'un coup ? D'abord le 3, puis le 4. Ils sont un petit peu différents, donc
On va les faire un après l'autre.
Alors d'abord le 3, c'était il y a déjà 10 jours. Je me souviens presque plus de ce qui s'est passé. Si, c'était la bagarre. C'était... L'épisode de la bagarre avec donc le combat après que les deux Hawkeye se soient fait attraper, et il y a Echo qui est pas contente, et il y a cette petite scène au début assez marrante où ils se moquent de Hawkeye et ils le mettent sur le petit manège machin, c'est rigolo. Et puis il y a la bagarre, et puis il y a l'histoire où il perd son aide auditive, et puis après ça, il y a le retour à la maison avec cette scène très émouvante. Enfin, il y a la bagarre d'abord dans l'entrepôt, et puis la poursuite en voiture, et puis le retour à la maison où il y a la discussion très émouvante avec le fils, où elle se rend compte que c'est sérieux parce qu'il est loin de sa famille et il abandonne sa famille pour l'aider. Et la fin, c'est donc quand ils vont chez la mère de Kate et qu'on a cette scène terrifiante où l'épée de Ronin menace Clint Barton dans la maison de la maman de Kate. Donc, en gros, voilà l'épisode pour vous remémorer un petit peu. T'en as pensé quoi, toi ?
J'ai adoré. C'est mon épisode préféré pour le moment. Alors, un peu moins de Noël, un peu plus de bagarre, c'est vrai.
Ouais, c'est là que les choses commencent. L'action commence vraiment dans celui-là. Ouais.
Mais il y a aussi deux nouveaux personnages. Donc, on a le personnage d'Echo qui est quand même assez bien développé avec du coup son passé.
Ah oui, il y a l'intro que j'ai oublié, bien sûr.
Il y a toute l'intro avec du coup comment le passé d'Echo, son père. Comment elle a vécu, du coup, l'assassinat de son père, l'assassinat de son père par Rollin. Et du coup, bon, ça c'est un peu facile après pour comprendre ses motivations, du coup. Hein. mais surtout, l'apparition d'une figure un peu énigmatique, qui est son oncle. voilà, que qu'on devine être Wilson
quelqu'un.
Fisk.
Ah bon, ben voilà, d'accord, très bien.
Bah, attends.
Oui, c'est, disons que si vous écoutez voilà. ces émissions sans avoir voilà. Vu les épisodes, c'est un peu... oui, c'est des spoilers en permanence, là, aujourd'hui. Mais oui, on imagine que ça va être lui. Et la grande question, c'est qui va le jouer, mais on ouais. se doute un petit peu de qui va le jouer, quoi.
Oui, c'est ça. C'est
si
bon,
c'est
ça,
lui.
J'espère que ce sera lui, parce qu'il était bien.
Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, si ouais, c'est ouais. effectivement le Wilson
oui.
Fisk, a priori c'est lui, et il semblerait en plus que Vincent D'Onofrio ait tweeté beaucoup sur la série,
ouais.
et c'est genre il l'a pas
ouais,
dit,
ouais.
mais bon, on commence
et
à
puis,
s'en
et
douter.
Puis, et puis Kevin Feige a fait une interview récemment en disant, par rapport à Daredevil, que si jamais il y a un Daredevil qui revient dans la MCU, ça serait Charlie Cox, donc l'acteur.
De la série Netflix,
Netflix
oui.
Du
oui,
coup,
pour ceux qui ne savent pas.
De bons espoirs, quoi.
Pour ceux qui ne savent pas, la série Netflix Daredevil était effectivement l'une des. Enfin, c'était l'une des meilleures séries, surtout la première saison, l'une des premières séries Marvel Netflix. Et Charlie Cox était celui qui jouait Daredevil, et Vincent D'Onofrio était assez éclatant en Kingpin. Et donc, oui, on pense que le si il revient dans le MCU, c'est un peu bon. C'est bon, il va être là, quoi. On pense. Mais du coup, bon, ça peut être... On ne sait pas si ça sera canoniquement le même personnage ou si ça sera un univers parallèle parce qu'on commence à parler beaucoup d'univers ouais. parallèle ou ce genre de choses. On ne sait pas trop. Mais...
J'espère que ça sera un univers parallèle, personnellement. Mm-hmm. Parce que... ça vaudrait, j'espère que ça sera un parallèle parce que sinon, ça voudrait dire que... Que Iron Fist est canon et ça me plaît pas très bien. Mais ouais, j'espère quand même que ces acteurs-là seront là parce qu'ils méritent quoi. Ils ont ouais. été bons dans ce qu'ils ont fait et ça va être difficile de les voir partir avec voilà les soucis qu'il y a eu sur la fin des séries Netflix.
Tu sais, ça me fait toujours ouais. penser quand on évoque ce genre de choses parce qu'ils étaient tous bons sauf bon Iron Fist qui malheureusement, mais ils étaient tous bons. Et quand Marvel a récupéré les droits de Netflix, je crois qu'ils avaient 2 ans, ils ne pouvaient pas utiliser les personnages à la télé pendant 2 ans, enfin à la télé entre guillemets. Et j'ai beaucoup admiré la discipline des acteurs qui n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit genre « Ah, oh, ça serait cool qu'on soit dans le MCU ». Ils n'ont rien dit. Ils sont restés hyper calmes. Et c'est ouais. toujours un gros contraste avec la série ABC Agents of S.H.I.E.L.D. où la... Je ne sais plus comment elle s'appelait, celle qui est devenue la personnage principale. J'ai regardé genre 3-4 séries, 3-4 saisons. Et... Ah, je ne sais plus. Mais c'est devenu franchement assez mauvais. Et elle... était en train de faire des campagnes sur Twitter, genre « Ouais, Marvel n'a rien à faire de la série Agent of S.H.I.E.L.D. Il faudrait qu'on nous intègre dans le canon du MCU, mais c'est dégueulasse, ils veulent pas, allez les fans, soyez forts, machin. » Et, mais enfin, c'est pas comme ça. Il faut que tu sois, genre, que tu sois bien avec Marvel, avec Kevin Feige. Tu vas pas commencer à les faire chier en montant des campagnes Twitter pour... Enfin bon, donc bref, ça m'a toujours marqué. Et eux, ils ont été, mais silencieux, hyper calmes. Bref, bon, et visiblement,
sûr,
peut-être qu'ils vont
que,
au moins certains d'entre eux.
Ouais. Typiquement, je sais que pour Charlie Cox, à la moindre occasion, les journalistes ou les fans lui posaient tout le temps la question. Quoi. Donc,
ouais, ouais, c'est sûr.
Il a fallu vraiment tenir, parce que je pense qu'il sait qu'il reste Daredevil depuis quelques temps. Et voilà, et... Ça reste un peu secret, donc.
C'est sûr. Ouais. Mais pour revenir à Echo, tu parles de cette scène, effectivement, où on devine la main du Kingpin, mais tout ce qui vient avant est hyper fort, et c'est un parallèle avec, bien sûr, oui. la vie de Kate quand elle était plus jeune, et le fait qu'elle soit effectivement sourde, et en plus, elle a sa jambe artificielle, qui est visiblement... Je ne crois pas que le personnage de Echo soit dans cette situation, mais ouais. c'est Alacoa Cox qui a une jambe artificielle, et du coup, ils l'ont intégrée au personnage. Et bon sang, si tu as envie d'avoir de l'inclusivité de personnes un petit peu différentes, ouais. et qui sont badass, mais elle est tellement badass quand elle se bat, c'est incroyable, ouais. quoi. C'est
du coup, je me suis
super
renseigné un petit peu. Je pense comme toi, je me suis renseigné un petit peu. Effectivement, l'actrice qui joue Echo est effectivement sourde.
Ouais.
Elle est aussi effectivement native américaine et c'est son tout premier rôle ever partout. Quoi. Donc, elle n'a pas fait de film ou de cinéma avant ça. Et j'ai trouvé ça génial d'aller chercher cette actrice-là. Je pense que c'est sur casting, évidemment, mais... Et puis d'avoir intégré sa particularité justement d'être amputé et de le mettre en avant dans son personnage, et je trouve ça vraiment top quoi.
Ouais. Et de manière vraiment naturelle et bien faite. Donc bon, effectivement, la scène, l'intro est super forte quoi. Et du coup, encore une fois, tu comprends le personnage tout de suite. Et bon, bref, c'est une très bonne scène, j'ai trouvé.
Et puis après, bah, du coup, il y a toute la scène, la bagarre, l'évasion des deux Hawkeye en voiture. Et puis là, il y a tout le jeu des flèches, des trick arrows, avec toutes les différentes flèches de Hawkeye. C'est vraiment super drôle. Il a tellement de flèches différentes. Et puis ça finit sur, évidemment, sur la flèche de avec la technologie PIMS qui fait une énorme flèche qui vient s'écraser sur le pont.
La technologie, c'est PIM, hein, pas PIMS. PIMS, c'est des gâteaux.
C'est des petits gâteaux, voilà. C'est parce que j'ai pas petit déjeuner, ça. Et,
franchement, la technologie PIMS, je pense que ça serait assez révolutionnaire. Hein. Mais c'est assez cool. Et entre parenthèses, j'ai toujours un problème avec la manière dont fonctionne la technologie PIM, parce que, évidemment, il faut beaucoup de réalisme dans ces films de super-héros. Et. Est-ce qu'ils rajoutent de la masse aux trucs qui font grandir et est-ce qu'ils enlèvent de la masse aux trucs qui font réduire ? Parce que si tu mets toute la masse d'une personne dans la taille d'une fourmi, bah, t'as une fourmi qui pèse 70 kilos, ça marche pas. Et là, la flèche qui a grandi, d'où ils tirent la masse pour la faire grandir et qu'elle soit du poids qu'elle ferait si elle faisait cette taille ? C'est pas possible, là tu grandis, tu écartes les atomes, c'est pas... Bon, et vous pensez que je rigole, mais la question pour Miss Marvel a été abordée. D'où elle tire la masse pour faire grossir ses bras et ses mains. Mais bon, bref, c'est peu importe. Patrick est un nerd. Mais donc, ouais, c'était assez marrant cette scène. Elle était bien menée, drôle, pleine d'action, effectivement. Le combat entre Hawkeye et Echo était vraiment sympa. Et puis, il récupère son arc. Et là, il nous montre pourquoi il est Hawkeye, parce que depuis le début de la série, il n'y avait pas du tout de Hawkeye-rie. Et là, c'est vraiment c'est le meilleur archer du monde. Et puis, la scène à la fin avec la surprise, tu sais, c'est le petit truc. Ah, il a un petit truc, Pim. Et c'est du fan... Comment dire, c'est du fan service, c'est des choses que tu ne peux comprendre que si tu as vu énormément de films du MCU. Et bon, si tu les as pas vus, tu comprends que bon, c'est un truc bizarre qui fait grossir. Mais si tu les as vus, c'est pile le genre de truc qui fait que tous ces trucs interconnectés sont cool parce que tu sais ce qui va se passer et ça te fait plaisir de ramener des morceaux des autres films. C'était bien, bien foutu, bien mené, quoi.
Ce que je voulais aussi ajouter pour cet épisode-là, c'est du coup, bah, effectivement, tu l'as dit, il perdait son appareil auditif pendant le combat contre Echo, et donc après, pendant toute l'évasion, la course-poursuite et la fin de l'épisode, il l'a plus. Et du coup, bah, ça, je trouve qu'il y a une vraie dynamique que justement j'avais du mal à apprécier avant, mais entre Kate et Hawkeye, que je trouve top quoi. Donc lui qui entend rien, mais du coup il commence petit à petit à se synchroniser et à se comprendre malgré ça. Et ça finit complètement sur cette scène dans le métro où ils sont dans le métro où elle dit il faut qu'on sorte le chien. Lui il entend rien du tout, donc il dit autre chose. Et puis après c'est lui qui dit il faut qu'on sorte le chien. On sent vraiment qu'il y a quand même ils se sont un peu synchronisés. Ils sont sur la même longueur d'onde enfin, tu vois. Et je trouve que c'est super bien amené, que c'est amené par l'action, puis après par justement par cette scène de fin qui glisse vers un peu l'émouvant avec toute la séquence avec son fils.
Qui glisse carrément vers l'émouvant.
L'épisode est assez tranchassé, parce que si tu te rappelles un peu les deux premiers, on était vraiment sur quelque chose d'un peu tu sais, quand même. C'était
léger,
très Noël, quoi.
Ouais, léger Noël.
Léger Noël, avec des détours, quoi. Il y avait la séquence au jeu de rôle grandeur nature. Enfin, tu vois, ça prenait un peu son temps. Et là, tout à coup, on se retrouve à la fois par un épisode qui démarre sur cette petite fille sourde qui doit faire comme si elle est une petite fille normale et qui entend à l'école et qui arrive à être aussi bonne que les autres en faisant croire qu'elle entend alors qu'elle n'entend pas. Son père qui meurt. Puis ensuite une course-poursuite, puis ensuite cette séquence de hockey avec son fils, et là je m'étais dit waouh, bah, joyeux Noël, hein. et voilà, et du coup je trouvais ça assez notable, et cet épisode-là il m'a paru vraiment durer 15 minutes, quoi. J'ai trouvé ça vraiment haletant de bout en bout, avec évidemment l'ombre du fils, et moi j'étais là, waouh, j'avais, enfin, c'est vraiment ça a vraiment été le truc qui m'a marqué, quoi. J'ai commencé à rechercher, j'ai relancé Daredevil justement,
ah oui,
un petit peu deux épisodes dans la foulée, tout ça, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode là, quoi.
Ouais, bah, je suis assez d'accord, l'épisode est vraiment très bon. Une petite note sur la scène où il parle à son fils par Kate interposée, c'est un des rares moments où on voit Jeremy Renner vraiment jouer quelque chose. Ça, ouais, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Et c'est marrant parce que j'ai revu ce week-end Arrival, qui est un film de Denis Villeneuve, qui est une merveille. Et il est dans Arrival et il joue. Alors là encore, je vais pas vous dire c'est le meilleur acteur du monde, parce qu'on voit pas grand-chose, mais il joue pas mal et il joue très... Enfin, on se rend compte à quel point Clint Barton a très peu de choses à faire, en fait. Il fait deux émotions et un peu d'action, alors que Renner, c'est en fait un bon acteur, quoi. Encore une fois, j'insiste, c'est pas que je dis « mais c'est un acteur incroyable ». Non, mais c'est juste qu'il c'est un acteur et il sait bien jouer, et on le voit jamais. Et là, dans cette scène, on le voit vraiment. Et la manière dont l'écriture utilise le fait qu'il a plus son aide auditive... Et donc, il décroche le téléphone et il n'entend pas bien, il ne comprend pas. Et donc, Kate panique, elle lui dit que c'est son fils. Et là, lui, toute la scène est hyper bien écrite. Mais cet artifice de « il n'entend pas » et comment il communique avec son fils et la manière dont il dit « ah ouais, il y a un petit peu de délai » et tout, c'est hyper. Et bien sûr, le fait qu'il dise « ah, désolé, je ne peux pas encore venir ce jour-ci. Je ne peux pas venir demain, je dois rester encore un peu plus longtemps, etc. » Et chaque épisode, en fait... Il dit « bon, je dois rester un jour de plus ». Une fois à sa femme, une fois au fils, encore une fois à sa femme, à celui d'après, etc. Donc, c'est lourd émotionnellement, un petit peu. Et puis surtout, Kate se rend compte, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste qu'elle rigole et que tout est marrant et que, tu vois, c'est la vie de super-héros, ouais, je suis avec Hawkeye, machin. Il y a un truc vrai derrière, quoi. Et là, c'est la première fois qu'elle s'en rend compte. Bref, tout est bien écrit dans cet épisode, je trouve.
Meilleure conclusion.
Très bien. Et puis donc, la scène de fin, c'est le début de l'épisode d'après, donc on peut en parler aussi.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode ?
On fait la transition, oui.
Voilà. Dans l'épisode d'après, la tension retombe tout de suite, puisque c'est la maman et Jack qui se rendent compte qu'il y a un Avengers chez eux. Et il y a cette scène assez délicieuse où ils discutent de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est genre, ils ont attrapé les enfants en train de batifoler dans leur chambre. Et tu sais, ils doivent avoir la conversation très sérieuse avec les enfants. Et encore une fois, Okai qui est là, c'est bon, j'ai d'autres choses à faire. Et donc cette scène-là, et puis l'avertissement de la maman à Hawkeye, à Clint, qui est là encore un petit peu prenant.
Ouais. Alors il y a un truc un peu notable dans ce moment-là, justement, dans cet avertissement-là. C'est que c'est la première fois que je me rendais compte que la mère de Kate est assez louche, en fait. Parce que, effectivement, elle demande légitimement à Hawkeye, d'arrêter d'entraîner sa fille, dans des trucs dangereux. Bon, ça, y a rien de particulier à en dire. Ça me paraît naturel. Mais elle tourne la conversation plutôt dans le sens, il faudra arrêter votre enquête. Et puis, suite à cette conversation-là, on la voit. Alors, il y a une scène avec juste elle, juste la mère qui appelle quelqu'un. On ne sait pas qui dit.
Qui ça pourrait être?
Donc voilà, donc ça, c'est, je trouvais ça assez... Je ne m'étais pas rendu compte, en fait, et en y repensant, je dis, ben oui, c'est vrai qu'elle est louche, quoi. Elle a une société de... on ne sait pas trop quoi, de sécurité, qui permet de retrouver tous les téléphones de n'importe qui, là.
Ouais, mais on en avait parlé, je pensais que tu avais compris que c'était un petit peu bizarre. Ouais,
on en avait parlé, mais bon, là pour moi, ça, maintenant, ça commence à devenir un peu clair, quoi. Ouais. Et de l'autre côté, il y a Jack où justement, bah là, c'est plutôt à l'opposé. Je commence à me demander du coup si de quel côté il est, quoi. Est-ce qu'il est pas justement. Enfin, moi, je partais du principe qu'il était quand même assez antagoniste initialement, en tout cas. Je commence à avoir des doutes, quoi.
Clairement. Je sais pas clairement, trop ils l'ont retourné dans cet épisode avec cette scène très authentique et très émouvante, encore une fois, où Kate se rend compte que Jack, bah, il rend vraiment sa mère heureuse. Il est peut-être un petit peu simplet, tu vois, avec ses expressions qu'il utilise mal. Il en joue, et c'est ce qu'on pensait au début, il fait l'idiot alors qu'en fait il ne l'est pas. Mais ce qui est clair, c'est que le moment où il danse avec la mère de Kate... avec Eleanor, et juste un petit peu émouvant, et Kate sourit même, et tu vois, elle voit sa mère heureuse, et c'est un truc qu'elle a visiblement pas vu depuis longtemps. Et lui, il est très... C'est marrant à quel point, ça doit être un très bon acteur, parce que dans ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, on sentait cette pointe de... non mais il est louche, tu vois. Et là, cette pointe, on a l'impression que rien n'a changé, mais en fait, cette petite touche a disparu. Et il est juste, bonhomme, gentil, tu vois. Je dis gentil au sens authentiquement gentil, bon. Et donc, c'est assez intéressant. Et du coup, je ne sais plus du tout où le placer, le mec.
Ouais, parce que si tu te souviens, au premier épisode, il va quand même à l'enchère secrète pour faire chier son oncle. Et puis effectivement, il était super agaçant dans les deux premiers épisodes, et là le côté agaçant a disparu, mais il y a toujours un peu ce côté un peu bizarre, un peu quand même on sent qu'il joue quelque chose, parce que quand il tient l'épée, quand il tient au caillou en joue, il est super sérieux, menaçant.
Ouais.
Et puis immédiatement après, il fait le clown, et puis il devient attachant, quoi. Il y a vraiment un truc assez étrange avec ce personnage là et en plus ce changement là il arrive au moment où on apprend que il est CEO d'une boîte qui sert
de Sloan Incorporated, Sloan Limited.
Ouais, qui sert aux tracksuit mafia à faire du blanchiment d'argent. Donc voilà, est-ce que son nom a été utilisé contre lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Enfin, il reste encore...
On ne sait pas, c'est mystérieux. Et donc, Clint va voir Cassie, le lieutenant de la tracksuit mafia, et... Kate va voir les LARPers pour leur demander de récupérer Bon, cette partie avec Kate qui va leur demander de récupérer, tu sais, les trucs en disant « Oh, faut juste choper les pièces à conviction, tu sais. Ah, ok, je veux bien le faire. » Clairement, c'est un petit peu débile, mais bon, c'est pas très grave. La scène avec Cassie, elle est là encore assez bien faite, bien écrite, un petit peu tendue, et puis on sent que, tu vois... On est dans cette situation où Barton, il est encore une fois blasé, tu vois, il doit gérer les tracksuit mafia, mais bon, mais j'ai bien aimé moi ces deux scènes, même si celle de Kate c'est vraiment, il pousse sur le débile, mais moi je trouve que ça fonctionne.
Ouais, au début, je comprenais pas du tout, quoi. Alors, il explique, hein, c'est parce qu'il lui dit parmi ce groupe-là, il y a une flic et elle peut nous aider, quoi. Mais au début, elle va aller voir, j'avais loupé en fait cette info et je comprenais pas pourquoi c'était eux qui allaient chercher les flèches et tout ça, et c'est vraiment le prétexte de revoir ce groupe là et c'est sûrement le cas, et je pense qu'ils vont les aider,
même avec le fait qu'il y a une flic, c'est complètement un prétexte, et puis c'est débile, enfin ça n'a pas de sens, on est d'accord.
Non, ça n'a aucun sens.
Et puis, effectivement, on peut commencer à entrevoir peut-être même une importance plus grande pour ce groupe, ou en tout cas certains membres du groupe, avec notamment celle qui fait les costumes, qui va peut-être... Il y a dans les comics des, si je ne me trompe pas, des personnes qui font les des costumes de super-héros. Ou en tout cas, là, dans, dans celle-là, ça pourrait être la nana qui devient la faiseuse de petites costumes, de costumes de petits super-héros de New York, tu vois, de gens au niveau ouais. de, pas au niveau cosmique, de la même manière qu'on a la, l'infirmière qui rafistole les super-héros, qu'on a beaucoup vu dans les séries Netflix et ce genre de trucs, tu vois, ou la, la, l'avocate des super-héros, c'est She-Hulk, ce genre de trucs, tu vois. Et là, ça peut être celle qui fait les costumes de super-héros. Maintenant que Iron Man n'est plus là, il faut bien quelqu'un qui fait des costumes. Mmh. Mais...
Du coup, je suppose effectivement que ce groupe-là va servir sur le final, soit à jouer la comédie pour, voilà,
pour perturber
dans un plan,
quelque chose.
Sais, ouais, voilà. Donc, on verra, mais... Ouais. Ou alors ils vont aussi faire probablement faire les costumes de Fino de Kate et
Ah bah ça
et
c'est
okay.
sûr. ça c'est sûr, elle a dit
les comics accurate costumes.
Les quoi pardon?
Ouais. Les costumes comics accurate, tu sais les
c'est
costumes
ça.
Tels que dans les comics.
C'est ça. Mais elle a dit d'ailleurs ah bah vous pouvez faire des costumes ah bah faites-en on vous chope les matériaux et vous en faites deux de plus parce qu'on en a besoin genre wink wink ok. Ouais. Mais et même ça c'est complètement débile. En quoi est-ce que le deal c'est que on va avoir des matériaux pour faire des costumes? Enfin ça n'a pas de sens. Pourquoi ils ont besoin de Kate Bishop et Clint Barton pour choper de quoi faire des costumes? C'est ridicule, mais bon, on s'en fout. C'est pas très grave. Et du coup, la dernière scène, c'est la scène de combat où ils vont essayer de récupérer la Rolex. Ah oui, parce qu'il y a cette histoire de Rolex voilà. qui... Vas-y.
Juste avant ça, il y a cette scène que j'ai adorée et que j'ai vraiment appréciée au second visionnage. C'est justement la scène où il sort du coup de chez Kate au début et qu'il appelle sa femme. Et sa femme qui parle en code pour pas que ses enfants comprennent, pour lui expliquer que bah voilà c'est la série qui lui explique que telle société ceci cela enfin qu'elle est liée au Traxxus Mafia etc. Et il y a cet échange là où justement elle parle je sais pas comment le dire mais pas vraiment en code mais en détournant les mots pour pas que les enfants comprennent mais les enfants comprennent très bien. qu'elle est en train de parler à leur père et en fait j'aime bien aussi ce côté tu sais du fait qu'il se repose sur elle et qu'elle ouais. qu'elle soit je sais pas comment dire active quoi ouais. sa femme elle est peut-être avec les gamins à l'autre bout mais elle a l'air complètement capable quoi elle est capable de retrouver ces infos là rapidement donc je trouvais ça assez chouette pour ce perso là. Et puis, effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à parler de la montre. C'est elle qui lui dit que la montre est toujours, apparemment toujours intacte, puisque son émetteur est en train de démettre, machin. Et donc, ça pose la question de cette montre. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on en avait parlé, je crois. Je sais plus si on en avait parlé.
Oui, oui, un tout petit peu, mais elle a.
Et du coup, on se demande à qui elle est. Je pense qu'elle est. Moi, je pensais qu'elle était probablement à Tony Stark. Mais ça me paraît étrange qu'il
ah bah
ait,
non, mais là,
qu'il pensait à qui elle.
Non, mais maintenant, c'est assez clair. Je pense que c'est une montre qui appartenait à... ou qui était un outil de Laura, qui est en fait un ancien agent. Sa femme est un ancien agent, je pense. Et alors, peut-être que c'est pas ça, mais ça semble être l'idée la plus cohérente. Alors, pourquoi est-ce que cet agent avait une Rolex qui est liée à son identité, comme le dit Clint, et donc, il faut pas... Pourquoi elle était là, dans le Avengers Compound, alors qu'elle, elle est clairement plus un agent depuis, si c'est ça, depuis quoi, 12 ans, 15 ans? Donc, enfin, bon, là encore, bon, peut-être qu'ils trouveront une explication, ça paraît étrange. Mais
c'est
à mon avis,
c'est une Black Widow,
serait...
du coup ça...
Oh non, non, quand même, il n'y a pas des Black Widow partout.
Maintenant, si, en tout cas.
Ouais, mais non, je pense pas. Non, je pense que c'était un agent de, je sais pas, soit du SHIELD, soit d'une agence gouvernementale, tu vois. J'imagine que c'est un truc comme ça. On verra, je suis sûr qu'on aura la réponse dans un ou deux épisodes, mais c'est ce que j'imagine.
Ouais, ouais. Et du coup,
ils vont choper la ils vont essayer de récupérer la montre et ils se rendent compte qu'elle est chez comment elle s'appelle Maya Lopez et le truc qui est un petit peu plus inquiétant encore que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que elle s'intéresse à Clint Barton parce que elle se dit bah peut-être que c'était lui le ou en tout cas elle enquête sur lui, elle a les noms de ses enfants, de sa femme, etc. Alors que normalement personne sait tout ça. Il est complètement off the grid, personne ne sait qu'il a une famille, personne ne sait qu'il a des enfants. Enfin bon, ensuite, si on les observe, on l'a vu avec ses enfants à New York, donc peut-être qu'elle l'a suivi ou Dieu sait quoi. Mais oui, c'est extrêmement inquiétant. Et puis, il y a cette scène de bagarre qui est mi-comique, mi-badass, qui était peut-être un peu moins bien que la précédente. C'était un peu plus brouillon, j'ai trouvé.
J'ai pas vraiment aimé, c'est très brouillon, en fait. C'est comme tu dis, c'est que... bon, déjà, c'est dans le noir, donc on voit pas très très bien tout ce qui se passe. Et puis en plus, bah, y a tous ces personnages en même temps. Donc il y a Yelena qui arrive à ce moment-là et qui se bat à la fois contre Maya, à la fois contre l'équipe d'Okai. Et c'est très brouillon. Et puis il y a des coups qui sont un peu farfelus. Tu sais, ils se prennent des coups, ils voltigent un peu bizarrement, etc. Ouais. Et en plus de ça, je comprends pas ce qu'essaye de faire Yelena, en fait.
Ouais,
du coup, on se doutait qu'elle avait un objectif de venir tuer Okai. Hein. C'est comme ça que j'avais compris la scène de fin de Black Widow. Elle arrive et clairement, elle essaye pas de tuer Okai. Hein. Elle essaye de, on sait pas trop quoi.
Ouais, on sait carrément pas du tout quoi en fait, parce que moi, ça m'a beaucoup choqué aussi.
Elle est venue donner trois coups, elle s'en va et.
Elle est venue taper, donner des coups de poing à Okai, alors que c'est une Black Widow, tu vois, elle pourrait tirer au fusil sniper de 4 km, elle pourrait mettre du poison dans son thé quand il n'est pas à la maison, n'importe quoi. Et elle vient lui donner des coups de poing, c'était clairement assez ridicule. Mais, ouais. Mais bon, c'est. Voilà, bon. C'est pas très très grave, mais on est d'accord, c'est assez ridicule, ouais. Donc il y a cette scène de combat, je sais pas s'il y a grand chose à en dire en fait, parce que c'est juste une scène de combat et puis on se rend compte que c'est Yelena, mais on le savait déjà. C'est marrant quand il dit ah ouais, bah je sais que il y a Maya qui est là, je suis en train de me battre contre elle, et elle dit non, mais définitivement pas. Et bien sûr, le moment où elle essaye d'aller d'un immeuble à l'autre, c'est marrant. Et puis surtout, le moment où il se rend compte que c'est une Black Widow et il dit « Non, mais maintenant, c'est fini de rigoler, quoi. »
Là, les choses sérieuses ont commencé, là.
Ouais. Et tu vas rentrer chez toi et c'est terminé. Il y a quelqu'un qui a engagé une Black Widow, donc c'est plus drôle du tout. Donc c'est assez. Il faut avouer aussi au rayon des trucs un petit peu horripilants, la manière dont n'écoute pas ce qu'il faudrait faire, tu vois, et elle fait juste je vais rentrer par là, et
elle raconte sa vie et
elle raconte et non mais en plus elle est pas discrète quoi, tu vois, t'es censé être hyper discret quand t'es un espion, et là elle rentre dans le truc, tout le monde l'a vu, elle a dit je suis en train de parler à un Avenger, tout ça. Bon, c'est pas très très grave, mais c'est un petit peu bête quoi.
Ouais, ça appuie un peu trop, enfin plus que ce qu'il n'en faut, le côté fangirl de, tu vois, du truc un peu loufoque, et il n'y a pas besoin parce qu'on.
Et même plus que ça, c'est bête parce que c'est dangereux, tu vois, dans une mission d'espionnage ou je ne sais quoi. Tu fais pas ça. Quand la police va venir enquêter ensuite, il faut pas que les gens puissent s'identifier. Enfin bon, mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, ça c'était pour les épisodes 3 et 4. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
On pourrait parler quand même, alors qui est quand même je trouve la scène aussi assez sympa du moment où ils font la nuit film de Noël justement avec Okai, où elle vient. En fait, elle se rend compte que Noël.
Ah mais oui, bien sûr. Oui.
Parce que ses parents discutent et elle se dit et elle pense à Okai qui est seul, et du coup elle va le voir avec les piles de Noël, le sapin, les décos et les films de Noël, et du coup c'est là où ils vont passer un super moment tous les deux, où en même temps qu'ils réfléchissent à comment ils vont faire le plan pour c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Ils vont s'amuser. Il va lui apprendre à lancer des pièces, machin. ils vont boire des cocktails. Donc, je pense qu'ils finissent un peu sous tous les deux. Et c'est un très chouette moment, quoi. Et là, j'ai retrouvé justement ce côté Noël et que j'aime bien en ce moment, hein. Donc du coup c'est assez doudou en ce moment de voir ça, et puis justement, ouais, de revoir un Hawkeye, comme tu disais, qui a un Rainer qui a un panel d'acting un peu plus développé que quand il fait juste le Hawkeye pas content, quoi, ou dépressif. Et très chouette moment, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Puis c'est drôle. Et les deux personnages sont drôles. En fait, j'en avais parlé au tout début, là, sur les deux premiers épisodes. C'est que j'adore l'actrice qui joue Kate. Et j'aimais bien comment elle incarnait ce rôle-là. Et Rainer, j'étais pas fan, quoi. D'ailleurs, j'ai jamais été très fan de Rainer, à vrai dire. Mais du coup, j'arrivais pas à... Voilà, leur relation m'intéressait pas beaucoup, quoi, en termes d'acting, en termes de dynamique. Et je trouve que ça y est, quoi, depuis l'épisode 3, et avec l'épisode 4, ça se confirme, je trouve que ça marche super bien. Et c'est grâce notamment à ces scènes, justement, un peu plus dans l'émotion, etc., qui cimentent un peu cette dynamique-là, justement. Et voilà, j'ai... Encore un super épisode, même si bah, y a encore un peu quelques détours, quoi, par les LARP, par des choses un peu plus loufoques, comme la scène de l'ascenseur avec le vieux, justement, où elle raconte qu'elle est avec un Avenger, machin, etc. malgré ça, je trouve que la série s'est bonifiée avec ces deux nouveaux épisodes.
Bah, écoute, je suis content que tu n'aies pas oublié de mentionner cette scène, parce que c'est vraiment l'une de mes scènes préférées, et elle est excellente. Je trouve que justement, ça donne beaucoup de texture et de profondeur au personnage de Clint, essentiellement. Et puis, ça, la partie où il parle de Black Widow aussi, et puis c'est marrant, je veux dire, il mélange à la fois, encore une fois, une écriture très intelligente, il mélange à la fois le comique et l'émouvant. Le moment où elle lui dit « mais t'es sûr que c'est un marqueur que tu peux effacer ?» et elle se retourne, tu vois. Et la partie avec le quarter, la pièce, où il dit bah, « je peux mettre quelqu'un dans les pommes avec une pièce », c'est marrant, même au niveau de, tu vois, fan de comics, des super-pouvoirs, parce qu'il est un petit peu, tu vois, tout devient une arme dans ses mains, un peu comme, comment il s'appelle, merde, je sais plus comment il s'appelle le français, là. Bref. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais que le claquement de doigts, c'est le mouvement le plus rapide que peut faire un être humain? Écoute, voilà, petit trivia, le claquement de doigts est le mouvement le plus rapide que peut faire un être humain, et donc évidemment que c'est complètement logique que, bien dirigé, il puisse faire tomber quelqu'un dans les pommes avec un claquement de doigts, avec une pièce, tu vois, c'est clairement...
Réaliste, en fait, c'est ça que tu essaies de me dire.
Complètement réaliste, complètement. Et on s'imagine bien qu'ils vont l'utiliser dans le dernier épisode, ou peut-être pas, peut-être que ça serait cool, tu vois, qu'ils n'utilisent pas ça. Et que ça ressorte, genre, dans une série ou deux, tu vois, une prochaine série ou un film, et que ça soit pas utilisé juste maintenant. Bref.
Ouais, vu les effets spéciaux qu'ils ont mis pour montrer le claquement, je pense qu'ils vont quand même le réutiliser.
Je pense aussi. Mais ce que je voudrais dire aussi, qu'à ce stade, alors il faut attendre les deux derniers épisodes, mais à ce stade, je crois que c'est ma série Marvel préférée de Disney+, avec WandaVision. J'ai un petit peu, c'est tellement différent, j'ai du mal à savoir laquelle je préfère, mais je la préfère, à, même à Loki et à Falcon et Winter Soldier, qui étaient...
Ouais, je te suis là-dessus, ouais.
Donc,
et moi, je pense que je la préfère même à WandaVision. Bon, après, c'est des registres tellement différents que, bon, c'est un peu... voilà, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, mais
c'est ça.
Et puis là, c'est surtout que c'est Noël et que je suis content de voir ce truc là, en fait. Mais on verra, on pourra y réfléchir plus tard quand on fera un bilan.
Un bilan, ça marche. Ok. Bah écoute, c'est du coup la fin pour cette première discussion. Est-ce que tu voudrais que je te parle un petit peu de Venom 2?
Alors, s'il faut vraiment, Patrick.
Alors, comment dire, comment te dire, comment t'expliquer? J'ai eu la malchance de voir Venom 2 il y a quelque temps. Et c'est vraiment l'un des pires films de super-héros que j'ai vu de toute ma vie. C'est extrêmement, extrêmement mauvais. À un point où il est difficile de le décrire. Il est au niveau des films des 4 Fantastiques, tu sais, de la Fox, à l'époque où ils en faisaient. Il n'y a rien à sauver. Le premier, il faut que je dise, le premier était très mauvais, mais moi, je l'avais trouvé amusant, distrayant. Tu vois, je n'avais pas trouvé que c'était... Alors, c'était un mauvais film, je pense, mais on pouvait passer un bon moment en le regardant. Celui-là...
Alors que le premier, moi, je le trouvais déjà au niveau de Catwoman. Hein. Je l'avais dit
la dernière fois. Alors, il faut vraiment pas... Tu m'avais dit que tu le trouvais très mauvais, mais pas à ce point-là, je n'avais pas compris. Mais non, mais c'est hallucinant à quel point c'est mauvais. Hallucinant. En fait, il n'y a rien qui va. Et même Andy Serkis, qui est le réalisateur du film, a dit « Oh, mais vous savez, on ne voulait pas s'embarrasser avec de l'histoire. On voulait vraiment faire un film d'action, super action, qui vous fasse passer un bon moment, un thrill ride, tu vois. » Et c'est exactement ça, sauf qu'il n'y a pas de thrill. C'est juste des personnages qui font des trucs sans raison et qui font des trucs débiles. Il y a une scène qui est une augmentation de ce qu'on a vu dans le premier, où Venom, qui est dans le corps de Eddie Brock, fout le bordel dans son appartement. Genre, il lui dit « Oh, je vais te faire le petit déjeuner. » Et il y a les tentacules de Venom qui sortent de partout, et donc, il renverse du lait partout, il casse les œufs à moitié dans la poêle, et à moitié sur le... Tu vois, en dehors, et ce genre de trucs. Et c'est que des trucs comme ça. Les personnages n'ont aucune motivation. J'ai vu une vidéo YouTube d'analyse où le type dit « C'est un film pour enfants de 10 ans ». Alors, c'est bien ou pas bien, effectivement, les enfants de 10 ans vont peut-être apprécier, mais c'est un film pour enfants de 10 ans parce que les personnages n'ont aucune motivation. Et c'est vrai, le méchant serial killer, il est méchant parce qu'on dit qu'il est méchant. On le voit dans une prison, donc forcément, ça veut dire qu'il est méchant. Et Woody Harrelson, il fait sa tête de psychopathe, donc tu comprends qu'il est méchant. Mais on n'a aucune raison de penser qu'il est méchant, autre que le fait qu'on dise qu'il est méchant. Eddie Brock, il veut être un bon journaliste. Et une fois qu'il est un bon journaliste, d'une part, il fait aucun travail de journaliste, mais une fois qu'il est un bon journaliste, il est exactement comme il était avant d'être un bon journaliste. Enfin, c'est pas la peine de passer plus de temps dessus. C'est un très, très, très mauvais film. Voilà. Venom.
Alors, du coup, est-ce que c'était de ma faute si tu l'as vu? Parce que je t'avais dit que potentiellement, ce serait un film intéressant à voir pour le MCU. Parce que moi, j'avais vu quelque chose, j'avais vu la scène post-générique, et je t'en avais parlé, et du coup, j'ai l'impression d'avoir déclenché ton malheur.
Je dirais pas que c'est un malheur, c'est pas que je regrette de l'avoir vu non plus, tu vois, parfois, c'est un truc spécial pour les films de super-héros, même quand ils sont mauvais, enfin, généralement, ça me dérange pas de les avoir vus. Et donc, ça va. Je ne vais pas t'en vouloir jusqu'à la fin des temps et te le rappeler, tu vois, à chaque fois qu'on parle. Ah, mais à cause de soi, j'ai vu Venom. Non. Mais comme j'avais bien aimé le premier, je pense que j'aurais été content de le voir. Enfin, content. Je l'aurais peut-être regardé de toute façon. Et à vrai dire, tu sais quoi, je risque de... Comme tout est interconnecté, je risque de voir Venom 3 quand il sortira aussi. C'est à ce point que je suis irrécupérable. Donc voilà.
Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène post-générique qui nous dit ?
Bah écoute, si vraiment vous voulez rien savoir de spoiler de l'univers de Spider-Man, vous pouvez arrêter d'écouter maintenant parce qu'on va aussi parler de nos attentes pour Spider-Man No Way Home.
Ouais.
Bah écoute, c'est... Clairement, ça semble indiquer que parce que Venom a appuyé sur un switch, il a changé de réalité et on imagine qu'il est arrivé dans la réalité du MCU. On pense, c'est ce que je comprends. Et du coup, si on parle un petit peu de No Way Home, encore une fois, je vais essayer de spoiler aussi peu que possible, mais là, tout le monde en parle partout sur Internet et il semblerait qu'il ramène les personnages des trilogies, enfin des Spider-Man précédents de Sony. Et donc, on imagine qu'il va y avoir peut-être même au moins une apparition de Venom dans No Way Home. C'est ça que j'imagine. Mais ça m'a pas, tu vois, c'est pas genre, oh mon Dieu, on va voir Venom dans No Way Home. Moi, c'était sûr, le film était tellement mauvais que c'est genre, ouais, bon, ok. Et peut-être, enfin, Venom est un personnage intéressant, Eddie Brock est un personnage intéressant. Peut-être qu'avec un traitement du MCU, au milieu de tout ce qui va se passer visiblement dans No Way Home, ils réussiront à en faire quelque chose d'intéressant. Mais j'en doute, tu vois, ils n'auront pas le temps, ils n'auront pas de. Et puis, il est débile à la base dans, dans cette version. À mon avis, ça m'excite pas beaucoup, quoi. Je vais dire ça comme ça.
Ouais, alors, bah, moi, j'avais, je crois que j'avais déjà dit ce que j'en pensais. Hein. J'ai vraiment pas envie que ces univers-là se mélangent, mais bon, là, c'est trop tard, quoi, on va dire maintenant. Effectivement,
contre mauvaise fortune, bon cœur, il faut accepter la réalité.
Ce que je pense qui peut se passer, donc, c'est que tout ça sera relégué aux scènes post-génériques, quoi. Je pense qu'on a mis un peu Spider-Man dans la scène post-générique de Venom. On va mettre un peu de Venom dans la scène post-générique de Spider-Man. Et c'est tout, quoi. Enfin, en tout cas, j'espère que ça ira pas plus loin. Comme tu l'as dit, on sait qu'il y a, il y a du multivers dans le prochain Spider-Man. Donc, ça sera voilà, potentiellement l'occasion de renvoyer tout le monde chez lui. Potentiellement, le départ... chacun chez soi. Hein. Et les moutons seront bien gardés. Non, Spider-Man pourrait aussi quitter le MCU de cette manière-là. On ne sait pas trop comment tout va se faire parce qu'il y a, alors, y a toujours l'ombre des contrats Sony-Marvel
complètement
qui plane un peu au-dessus de tout ça.
Mais on a eu, alors vraiment, si vous voulez rien savoir, on a des éléments de réponse là-dessus. Est-ce que tu veux que j'en parle ou pas?
Oui, vas-y.
D'accord. Visiblement, je ne sais plus si c'était les gens de Sony ou Kevin Feige qui disaient que Tom Holland était le Spider-Man du MCU et qu'il le resterait, visiblement. Et qu'il continue
ça,
à travailler avec...
Alors ça, c'était de chez Sony qui disait ça.
Ah, d'accord, voilà, très bien. Donc, a priori, ça veut dire, et comme on l'espère, que ce Spider-Man va rester dans les MCU. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura deux versions et qu'ils vont être séparés dans deux multivers, ou est-ce qu'il va y avoir un autre Spider-Man? J'en doute. Tom Holland, il mise tout dessus maintenant chez Sony, donc il va rester dans l'univers de Spider-Man qu'ils sont en train de construire. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a Morbius aussi qui va arriver... c'est l'année prochaine, je crois, qu'il y a un autre personnage du Spider-Verse, enfin pas du Spider-Verse, mais de du multivers de Spider-Man de Sony. Le film a l'air assez mauvais, j'ai vu le trailer et ça n'inspire pas confiance avec Jared Leto qui n'a pas l'air d'être très bien utilisé. Mais du coup, je ne sais pas.
Ils ont même un projet de film Madame Web. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce personnage-là.
Ah oui, mais c'est hyper intéressant avec Madame Web. Enfin, ce qui se passe avec Madame Web, c'est le Spider-Verse, justement. C'est Spider-Geddon. Et il y a des personnages, des sortes de vampires. C'est vraiment un univers très, très complexe, l'univers de Spider-Man et le multivers de Spider-Man. Et il y a plein de trucs super cool à faire dans ce multivers. Le truc, c'est que je ne fais pas très confiance à Sony, vu Venom et Venom 2, pour bien le traiter.
Bien sûr.
Mais du coup, oui, tes attentes pour No Way Home.
Alors, bon, je vais dire tout de suite, moi, c'est pas un film que j'attends beaucoup, parce que les mélanges d'univers, ça a tendance à m'agacer, en fait, quand c'est fait comme ça, en fait. On ramène du Sony, du machin, et ce qui se passe quand il y a un film que j'ai pas très envie de voir, je consomme assez facilement toutes les bandes annonces, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui... pas vraiment envie. Donc j'ai tout vu en fait. J'ai vu toutes les bandes annonces.
Bon alors dis rien hein, parce que moi j'en ai vu aucune.
Évidemment je dis rien. Mais effectivement il se passe quelque chose avec ce Spider-Man là. C'est un des films les plus attendus jamais quoi. Hein. La bande annonce, la première bande annonce du coup de Spider-Man No Way Home et la bande annonce la plus vue en 24 heures sur YouTube. Enfin pas que sur YouTube, sur Internet. Elle a dépassé de très loin les records qui étaient détenus par Avengers Endgame. Les places sont introuvables. Alors les places sont en pré-vente depuis plusieurs jours. Les séances du mercredi c'est fini chez moi. Donc je pourrais pas le voir mercredi par exemple. Donc vraiment il y a un truc qui se passe et évidemment autour de ça t'as tout Internet qui est à fond dessus, qui scrute les moindres détails des trailers, qui pointe ça pourrait être cet acteur-là. Dans cette bande-annonce-là, ils ont peut-être effacé de la pellicule ceci, cela, hein, comme on sait que Marvel a l'habitude de modifier un peu ses bandes-annonces. Et c'est incessant, quoi. C'est, c'est incessant. Voilà, mes pages YouTube, comme j'ai vu la bande-annonce, me suggèrent des dizaines et des dizaines de vidéos analyses avec, tu sais, la miniature avec le cercle rouge et une flèche.
Exactement, oui. Non, mais moi, j'ai les mêmes. Tu sais, je regarde les analyses de tous les trucs dont on va
après
parler.
Coup, ouais.
Et donc, ouais. Et donc, oui, pareil, j'ai les trucs, les New Rockstars et les Heavy Spoilers et les Screen Crush, tous.
Voilà, donc pour revenir à mes attentes, elles sont assez basses, mais je m'attends quand même à passer un bon moment et j'espère que les séquences d'action seront à la hauteur un peu de la folie annoncée du truc, quoi. Donc, ouais. Des choses, voilà, des jeux avec les dimensions. Et malheureusement, j'attends énormément de fanservice, chose qui a tendance à vraiment m'horripiler parce que même si parfois ça me fait ressentir des choses, tu sais, à mon insu, parce que ça va évoquer des films de mon enfance ou ce genre de choses-là, je trouve que c'est jamais un truc. Je trouve que c'est un truc paresseux, quoi. C'est-à-dire qu'on te montre quelque chose de manière paresseuse qui va t'évoquer un truc qui était bien à l'époque. Et qui va te provoquer à ton insu une émotion forte ou une nostalgie, mais c'est pas forcément quelque chose de bien fait, quoi. Et c'est un peu ce que je reproche en général au fan service, c'est que on te montre un truc à l'écran sans talent, mais comme ça évoque un truc qui était génial, ça fait le taf, alors que eux n'ont pas bossé pour, quoi. Tu vois, je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire.
Si, très clair, ouais.
Et j'ai peur que ça soit ça pendant 2 heures, en fait. Un peu le truc, quoi.
Disons que moi je suis assez d'accord. Enfin, je trouve que c'est. Je sais pas exactement ce qu'ils essayent de faire et je pense qu'on ne le saura pas exactement avant de l'avoir vu, avant les dernières scènes. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un projet qui est hyper casse-gueule parce qu'il y a plein d'enjeux et plein de choses qu'ils semblent vouloir réaliser. Et des choses qui sont même en dehors du film lui-même parce qu'il y a l'enjeu effectivement de permettre à Sony de faire ses films tranquillement sans avoir se soucier à chaque film de la cohérence avec le MCU. Il y a le fait que c'est quand même un film du MCU et donc de faire sortir certains personnages de manière élégante peut-être, ou alors au contraire de garder Spider-Man dans le MCU et d'en avoir un quand même pour le Spider-Verse de Sony. Et comment faire ça en satisfaisant tout le monde? Parce que clairement, si Tom Holland n'est plus Spider-Man dans le MCU, si c'est plus Peter Parker, ça sera décevant. Même si, imaginons, ils veulent amener, il semble, le multivers de Sony quelque part dans le film. On sait qu'il y a Doctor Strange, il est sur toutes les affiches, donc il est aussi dans le film, donc il y aura une interaction là. Et une solution pourrait être de filer, Spider-Man... j'oublie, Miles Morales... au MCU, mais tu peux pas présenter Miles maintenant et le séparer des autres Spider-Man et en laisser un dans un univers, un autre dans un autre. Et en plus, Sony va pas laisser partir Miles Morales qui est hyper populaire. Enfin, c'est hyper compliqué à faire et du coup, ça devient fouillis parce que tu vas ramener des tonnes de personnages différents. Il y en a trop, quoi. Si effectivement, il y a tous les personnages qu'on suspecte qui vont être dans le film. Mais c'est trop le bordel. Et en plus de ça, moi, un truc qui me déçoit, c'est qu'on risque du coup de ne pas voir la vie de Peter Parker du MCU dans un monde où tout le monde connaît son identité, qui était le cliffhanger du Spider-Man précédent et qui était un gros morceau, quoi. Peter Parker, dont on connaît l'identité, c'est un film à lui tout seul. Et en plus, voir sa relation se développer avec MJ, ça aurait été un truc hyper intéressant aussi. Et clairement, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps. Donc, mes attentes, je ne sais même pas ce que c'est, parce que ça semble être tellement le bordel que je ne sais même pas quoi en penser. Évidemment, mes attentes sont quand même élevées, parce que Spider-Man est un personnage important, et puis ce qu'ils vont faire... avec le Spider-Verse Sony, ça pourrait être intéressant. Deux choses que je dirais, c'est que le MCU a suffisamment réussi, et Kevin Feige ont suffisamment réussi à réussir des choses dont on pensait qu'elles étaient irréussissables, que je me dis peut-être. peut-être qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et l'autre truc que je me dis, c'est j'espère, je ne sais pas combien de temps dure le film, mais on a souvent eu des films qui duraient plus de 2 heures dans le MCU. Donc j'espère qu'ils vont faire une bonne heure pour expliquer, et, enfin pas expliquer, mais montrer un petit peu justement la vie de Peter Parker dans un monde où tout le monde connaît son identité. Et puis c'est le bordel, et puis il va voir Doctor Strange en disant « Oh mais est-ce que vous pouvez pas m'aider, faites oublier à tout le monde qui je suis, machin ?» Et là ça fout le bordel avec le MCU parce qu'il se rend compte qu'il y a des Spider-Man partout, et là ça devient le bordel, mais au bout d'une heure ou même d'une heure et demie. J'ai pas besoin d'avoir 4 scènes où Tom Holland est poursuivi par tous les méchants des Spider-Man du passé, tu vois. S'il y a même, j'en sais rien, une scène de 10 minutes où c'est le bordel parce que tous les multivers se mélangent et puis après on passe à autre chose, où on a les conséquences de ça, je pense que ça pourrait me suffire. Ça pourrait être assez de fanservice pour moi. Et j'aimerais bien avoir un film Spider-Man avec ça peut-être, mais que ça soit une partie du film et pas toute tout l'objet du film pendant les 2 heures qu'il durera. Donc, voilà, c'est un petit peu mes spéculations, mes envies, mes attentes, on va dire.
Il y a eu des annonces le mois dernier, je crois, ou c'était il y a 2 mois, et ils ont annoncé une série animée Spider-Man sur Disney+. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça.
Ouais, parce que pour les séries animées, c'est Marvel qui a les droits.
Tout à fait.
Le truc sur lequel Sony a les droits, c'est uniquement les films. Je crois même pas de séries, en fait, mais uniquement les films.
Et du coup, ils expliquaient dans le pitch, le synopsis du truc, c'est la vie de Peter Parker, les débuts, en fait, du Peter Parker, enfin, du Peter Parker, du Spider-Man, du MCU. Donc on aura un peu, je suppose, peut-être son origin story, et puis un peu plus comment il découvre ses pouvoirs, etc. Donc ça ouais. J'étais assez content d'avoir ça côté Spider-Man, parce que du coup, moi, ce que j'aime bien avec Spider-Man, c'est plutôt... Alors, j'aime bien le Spider-Verse, mais j'aime bien ce Spider-Man un peu plus, du coup, terre-à-terre, etc. Et je suis content d'avoir l'opportunité d'avoir un peu de ça, parce qu'effectivement... ce qu'on a là avec ce qui arrive avec le Spider-Man 3, c'est l'inverse total, quoi. C'est des choses un peu plus
c'est pas cosmique, c'est multiversique.
C'est pas cosmique, mais bon, ça m'a l'air un peu too much, quoi. Et puis bon, il faut pas oublier que le film est dit être lié au prochain Doctor Strange d'une manière ou d'une autre. De toute façon, ça parle de multiverse, et on sait que Doctor Strange 2 parlera de multiverse aussi. Donc ça, c'est peut-être aussi mon attente, c'est de voir un peu justement les prémices du Doctor Strange que j'attends énormément. Donc voilà pour les attentes.
Eh bien écoute, on verra. Je dois quand même dire que j'aimerais avoir une très bonne surprise pour ce Spider-Man, parce que c'est l'un de mes personnages préférés. Et donc... comment dire, il y a plein de films Marvel où je me dis bah j'y vais, j'attends pas grand chose. Typiquement Eternal, j'ai bien aimé, mais bon voilà, si c'est pas le truc le plus beau de la terre, ça me tue pas. Spider-Man, en plus, il a été tellement parfait dans le MCU, j'aimerais bien qu'il ne plante pas ce film, donc j'ai quand même des attentes assez élevées, contrairement à toi. J'aimerais qu'il soit très bien, tu vois, mais bon, écoute, on verra. Merci Johan, c'était comme toujours un excellent moment en ta compagnie. Et puis du coup, tu pourras aller le voir jeudi, c'est ça, jeudi prochain ou pas?
Je vais essayer jeudi. Alors les places pour jeudi sont pas encore ouvertes, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire.
Écoute, moi je ne peux pas aller le voir mercredi, mais jeudi normalement je devrais pouvoir le voir. Et j'ai même envoyé un email à mon petit cinéma de quartier, mais là c'est le cinéma dans les 100 km à la ronde ou 50 km à la ronde, et j'ai réservé une place, ce que je n'ai jamais à faire parce qu'il y a toujours un tiers de la salle qui est pleine et c'est tout. Et là, je me suis dit, bon, au cas où, quand même, ça a l'air, comme tu dis, il a l'air de se passer un truc. Donc, j'ai réservé ma place. Donc, normalement, jeudi, je pourrais le voir. Donc, si tu réussis à le voir aussi, on fera peut-être un compte-rendu en fin de semaine prochaine. Et puis sinon, on se débrouillera. Peut-être lundi ou un truc comme ça. En tout cas, vous aurez votre compte-rendu quelques jours après la sortie du film, j'espère. Merci Johan. Johan T underscore sur Twitter. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter. Et puis NotePatrick.com pour avoir tous les podcasts que je fais, comme le rendez-vous jeu ou le rendez-vous tech pour l'actu jeu vidéo et l'actu tech. Et puis on se retrouve donc peut-être dans une semaine. Et puis dans tous les cas, dans deux semaines pour la fin, la conclusion de la série Hawkeye. Merci Johan.
Allez, à bientôt.
À très vite.
Ciao.